RCF.
RCF, Fabrice Gironnet.
18h10, vous êtes sur RCF et pour la dernière fois de la semaine, c'est le 18-19 en région avec Alexis Claudretz.
La dernière fois de la semaine, même la dernière fois avant quelques jours de vacances, mais rassurez-vous, Jean-Pierre Benoît, Thierry Delis vous accompagneront notamment sur l'antenne de RCF France Ardennes la semaine prochaine et vous retrouverez aussi des programmes locaux sur RCF Cœur de Champagne. Pas d'inquiétude donc. Au programme de ce 18-19 en Champagne ce soir, la chronique d'actualité du professeur Jacques Cohen. Macron, Ukraine, entrer en guerre s'il le faut, c'est la question qui est posée, il y répondra dans quelques secondes. Nous serons évidemment, comme tous les vendredis, avec l'archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, en alternance avec son auxiliaire, Mgr Étienne Véteux, mais c'est bien Mgr Éric de Moulin-Beaufort qui est aussi président de la conférence des évêques de France, qui sera avec nous ce soir. On vous proposera une découverte d'ici quelques minutes, celle de Motherhood, une association locale qui organise un week-end de confiance en soi pour la danse, à destination des femmes et notamment des mamans. Présentation là encore dans quelques minutes. Aux alentours de 18h30, c'est le journal régional, après quoi on vous proposera quelques découvertes touristiques, notamment avec le concours des jeunes talents du tourisme de l'agence de développement touristique de la Marne, qui sera présenté par Juliette Delcourt, attachée de presse, et puis le portrait de Silda, c'est la montée en puissance d'une artiste chalonnaise, une chanteuse qui monte, que vous découvrirez tout à l'heure. Voilà pour le programme de ce magazine régional, ce vendredi. Le premier à prendre la main, c'est le professeur Jacques Cohen, avec sa chronique d'actualité. Jacques, bonjour.
Bonjour.
Et aujourd'hui, le thème d'actualité dont vous voulez nous parler, c'est le président de la République française, Emmanuel Macron, et ses relations avec l'Ukraine. Si l'on fait une photographie, Jacques Cohen, c'est vrai qu'il y a eu du nouveau, notamment dans les déclarations du président de la République française, Emmanuel Macron, cette semaine.
Alors, le président de la République a fait une déclaration un peu étrange, parce qu'il est à contre-courant de ce que les chefs d'État occidentaux avaient décidé de faire et encore plus de dire. Il a indiqué que de toute façon, on ne pourrait pas laisser perdre l'Ukraine et que donc, s'il le fallait, on irait jusqu'à mettre des contingents au sol, c'est-à-dire d'aller jusqu'à la guerre. Au passage d'ailleurs, c'est assez étonnant parce qu'en principe, du point de vue constitutionnel, il est chef des armées, mais c'est pas lui qui déclare la guerre. Donc, c'est aussi une nouveauté. Et revenons donc à cette déclaration et pourquoi elle gêne tout le monde, y compris Zelensky, c'est que il y a déjà eu un autre signal donné par les Américains, qui est qu'un article du New York Times expliquait benoîtement que la CIA était largement implantée, mais non seulement en renseignement, mais qu'elle contrôlait une douzaine de stations d'écoute, et que, avec une autre centrale par ailleurs, et que tout ça réalisait en fait l'essentiel de l'espionnage et des interceptions permettant les tirs de l'armée ukrainienne, donc une implication au sol finalement américaine, qui était donc, j'allais dire, démasqué volontairement. D'autres pays ont indiqué qu'il y aurait encore du matériel, éventuellement du matériel à longue portée, sans trop dire s'il serait cette fois-ci interdit de s'en servir en Fédération de Russie ou pas, toujours confronté à un problème qu'on va voir, qui est le déséquilibre des forces conduit inéluctablement à un avantage militaire de la Russie, qui est peut-être temporaire, mais pour un an ou deux, selon l'attitude des Occidentaux ou pas. Et là-dessus, c'est la question, entre guillemets, des lignes rouges. Les Occidentaux ont très bien compris que Poutine n'a pas envie d'une guerre généralisée. Et donc, après avoir beaucoup hésité à tâter le terrain avec des fusées sol-air, puis avec des vrais chars, puis avec des missiles de moyenne portée, puis longue portée, mais officiellement interdits d'usage en Fédération de Russie, et puis finalement, les Ukrainiens ont fait une provocation pour voir. Ils ont tiré depuis la frontière des Patriotes, donc des missiles américains, mais filés opportunément par un autre pays que les Américains, m'en dit pas très bien lequel, je ne sais pas si c'est la Pologne ou la Suède. Ils ont donc abattu un avion russe sur le territoire de la Fédération de Russie avec du matériel américain. Donc là, encore une fois, une ligne présumée rouge qui est franchie sans grande réaction des Russes. Bon, c'est peut-être un petit peu parce que l'avion en question, mauvaise pioche, emportait des prisonniers ukrainiens pour un échange, mais ce n'est pas absolument certain. Mais globalement, on est dans cette situation où, de façon un peu paradoxale, les Occidentaux se sont rendus compte que les lignes rouges reculaient régulièrement et qu'ils pouvaient continuer, en tant que besoin, à les franchir, tout en se demandant s'il n'y en avait quand même pas une dernière qui serait tout à fait coûteuse et qui serait par surprise. Donc là-dessus, il a été décidé différentes aides, comme d'embaucher des mercenaires, on va les faire trouver, de faire une espèce de Wagner à l'envers, de la Wagner ukrainien, et puis différentes autres mesures dont je viens de vous parler au point de vue matériel. Mais il n'a surtout pas été dit que les Occidentaux seraient finalement impliqués au sol et avec des contingents, et, ou bien feraient eux-mêmes fonctionner le matériel qu'ils voulaient livrer. Et là-dessus, Macron a choisi le contraire, de dire que nous ne pouvons pas laisser perdre les Ukrainiens et que donc nous irons jusqu'à la guerre, puisque si on met des troupes au sol, ça veut dire de fait une belligérance. Là-dessus, les autres pays sont quand même très ennuyés, à commencer par l'Allemagne. Parce que l'Allemagne a un problème que Macron n'a pas, c'est que Scholz n'est pas fou et qu'il regarde son opinion publique. La déclaration de Macron vis-à-vis de l'opinion publique française est catastrophique, mais il pense qu'il a toujours pu en penser, qu'il peut se permettre de raconter n'importe quoi et de ne pas tenir compte même de l'existence d'un Parlement. Donc il se retrouve tout seul sur cette déclaration, et y compris Zelensky a préféré ne rien dire, et l'un de ses assistants qui a dit que le président français avait manifesté un net soutien, c'est-à-dire le service minimum. Donc, pourquoi cette déclaration? Eh bien, parce que les Ukrainiens sont en train de perdre sur le terrain, et ça va encore s'accentuer dans les prochains mois, parce que le seul avantage que les Ukrainiens avaient grâce aux Occidentaux, c'était une artillerie à longue portée de meilleure qualité, en gros portant plus loin. Eh bien, ça va se terminer assez rapidement, parce que rentre en service un nouveau modèle dans l'armée russe, et pour faire court, de canons qui vont être comparables ou légèrement supérieurs parce que plus modernes aux canons allemands ou aux célèbres César français en termes de portée et précision. Donc, si on rajoute toute l'idée des déséquilibres, déjà en termes de troupes, de population, d'infrastructures, enfin, il est inéluctable que les Russes avancent, et donc pour l'instant, ils soufflent le chaud et le froid. Medvedev est chargé de dire on peut aller jusqu'à la frontière polonaise, et Poutine, dans les fêtes, se contente de grignoter les bouts de Donbass qui lui manquent encore. Là-dessus, il semble que les Ukrainiens utilisent une tactique assez dangereuse qui est d'user leurs réserves et d'être en panne de matériel de façon à être en situation de perdre. Alors c'est un petit peu comme pour le pat aux échecs, mais pourquoi veut-il être en situation de perdre? Je pense parce que c'est la façon de faire chanter les Occidentaux et de pouvoir leur dire étape après étape: vous voyez bien que si vous ne déclenchez pas un conflit généralisé, nous allons perdre, et notre défaite serait pour vous une défaite politique majeure. Donc, c'est une dissuasion en quelque sorte du faible au fort. Et Macron lui indique qu'il est tout prêt dans ces cas-là à relever le défi, ce à quoi les autres hésitent. Autre problème également, ils ne savent toujours pas où est la vraie ligne rouge, puisque ils ont cru, ils se sont demandé prudemment si c'était au moment des chars, au moment des antimissiles, d'avoir des conseillers, entre guillemets, au sol. Et puis maintenant, est-ce que la vraie ligne rouge, ça sera s'il y a un contingent? Et de fait, à ce moment-là, la réponse de Peskov, du porte-parole du Kremlin, c'est il n'y a pas de probabilité à étudier dans ce cas-là, c'est une inéluctabilité de l'affrontement, c'est-à-dire de la guerre.
Jacques Cohen, il y avait effectivement la question du pourquoi à laquelle vous avez répondu. Vous avez aussi commencé à répondre à cette deuxième question que je vais vous poser. Mais il y a la question du timing. Pourquoi maintenant?
Parce que la situation sur le terrain se dégrade sérieusement et qu'on voit que finalement les Russes avancent prudemment, si j'ose dire, modérément par rapport à ce qu'ils pourraient faire. Probablement non pas par rapport strictement au rapport de force militaire, mais surtout parce qu'ils attendent l'élection américaine. C'est un petit jeu dangereux pour la direction russe, pour Poutine, parce que il a à peu près 2 ans de créneau. Pendant cette période, il pourrait très largement se permettre de plus d'actions. Alors, il y a une autre chose qu'il faut remarquer.
Ce sera le dernier point, Jacques Cohen.
C'est mon dernier point, justement. C'est que les Russes n'ont aucune solution politique ukrainienne. Et donc, ça, c'est très ennuyeux, parce que pour eux, parce qu'on ne voit pas très bien quelle négociation sur le raisonnement de faire changer de régime et d'avoir un régime qui leur soit favorable. Ils n'ont aucune émergence de force politique hostile à Zelensky, même si celui-ci se paraît quand même avoir chaud aux fesses en ayant été obligé de limoger Zaloujny et une vingtaine de dirigeants militaires. Mais les Russes n'ont pas de solution politique ukrainienne à sortir ou à favoriser, puisque là, il y a un asynchronisme complet. Ça ne veut pas dire que Zelensky et compagnie soient extrêmement populaires dans leur pays, c'est même très peu probable, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de solution sur laquelle la Russie pourrait peser ou avec laquelle elle pourrait négocier. Et donc ça, paradoxalement, ça ne laisse que du noir et blanc entre la reddition inconditionnelle et l'envahissement complet du pays, ce que les Occidentaux ne peuvent pas tolérer, et de rester sur une espèce de situation chèvre-chou, d'arriver jusqu'à une ligne de front de fait gelée avec refroidissement des combats, mais ce refroidissement n'est nullement garanti, et surtout avec l'arrière-pensée côté ukrainien, qu'une fois qu'on sera refait, si j'ose dire, avec du matériel occidental, quand enfin les Occidentaux se considéreront qu'ils sont obligés de donner du matériel et des gens pour s'en servir, on pourra recommencer à avancer dans l'autre sens. Donc, comme vous voyez, la situation reste obscure et il est assez étonnant que notre président ait choisi de se mettre en vitrine dans un pari sur l'hypothèse la plus pessimiste de la situation, ce qui est un petit peu étonnant.
Merci Jacques Cohen de nous avoir éclairé sur les rapports entre Macron et l'Ukraine et on vous dit à très bientôt, professeur, avec toujours plus d'infos sur votre blog jhmcohen.com.
Merci, à bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
Le chat n'est pas là, les souris dansent. Ce soir, on change un peu les habitudes, exceptionnellement. Jean-Pierre Benoît ne nous en voudra pas pour tout vous dire. Le maire que l'on a rencontré ce midi sur RCF, Reims-Ardennes et Alban-Colinet, l'édile de Ballan, près de Sedan, dans les Ardennes. Mais c'était une rediffusion que vous pouvez retrouver dans la rubrique programme sur le site rcf.fr. Alors nous, ce soir, on a préféré mettre le cap sur l'association Motherhood avec deux invités en studio, dont la présidente, Cécile Margontier. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Et Myriam Hurier, adhérente bénévole active, comme l'a appelée sa présidente lorsque l'on préparait cette émission. Bonjour Myriam.
Bonjour Alexis.
Vous êtes avec nous pour nous présenter cette association et un événement qu'elle organise. Rendez-vous le 23-24 mars. De quoi s'agit-il ?
Alors, il s'agit d'un week-end dédié à la confiance en soi, accessible pour les femmes, qu'elles soient mères ou non, qu'elles soient accompagnées d'enfants ou non, puisqu'il y aura accès à un mode de garde sur place. Il y aura deux intervenants qui sont des danseurs et le but, effectivement, c'est de prendre confiance en soi par la danse.
Un exercice donc de prise de confiance en soi par la danse et par d'autres activités que nous aurons l'occasion de développer d'ici quelques minutes. On a peut-être compris les prémices de l'association Motherhood. C'est une association qui est finalement toute jeune, qui a été fondée il y a quelques mois.
Oui, tout à fait, puisqu'on a déposé les statuts en mai et que l'inauguration a eu lieu en septembre de l'année dernière.
Et cette association, quelle est son origine ? Pourquoi a-t-elle été créée ?
Alors, elle a plusieurs buts. Le but premier, c'est de rompre l'isolement qu'on peut ressentir quand on entre dans la maternité, puisqu'une femme sur deux déclare se sentir isolée en postpartum. Et on a aussi pour objectif de réduire le risque de dépression postpartum, qui est ce qui touche une femme sur cinq, et de prévenir les burn-out maternels.
On est avec Cécile Margontier, donc la présidente de cette association locale Motherhood. Nous avons également Myriam qui est avec nous, Myriam Hurier, adhérente bénévole active. Qu'est-ce qui vous a plu, Myriam, dans ce principe de l'association ? Pourquoi vous êtes engagée dedans ?
Alors, je connaissais Cécile avant la création de l'association et lors de l'inauguration, j'ai senti qu'il y avait vraiment une sorte de sororité entre les différentes mamans que j'ai pu rencontrer. J'y suis allée en connaissant deux personnes. Je suis repartie avec, je ne dirais pas des amis, mais des copines. Et surtout, c'était pour moi, alors que j'ai un enfant qui a plus de 3 ans, l'une de mes premières sorties seule le soir. Et ça, j'ai trouvé que ça m'avait fait vraiment un bien fou. Et dès le lendemain matin, j'envoyais un message à Cécile en disant « Cécile, si tu as besoin de moi, tu peux compter sur moi, on peut marcher ensemble ».
Ça veut dire que dans l'association, tout de suite, on sent un accueil bienveillant, accueillant, sans préjugés, et tout le monde y trouve sa place. C'est ça aussi qui est intéressant dans ce témoignage, si des femmes nous écoutent là sur l'antenne, qu'elles se disent, après cette interview, ben, si moi aussi j'ai envie de prendre contact, je vais pas être jugée, je vais être accueillie par cette association.
Tout à fait, qu'on ait des enfants en très bas âge, qu'on ne puisse pas quitter son bébé pour cause d'allaitement, parce qu'on a vraiment un nourrisson qui a quelques semaines, on est la bienvenue, que nos enfants soient un peu plus grands également. Les problématiques qu'on peut rencontrer sont à peu près toutes les mêmes. Cécile parlait d'isolement, c'est vraiment quelque chose dont on a du mal à réaliser le temps qu'on n'est pas dedans en fait. Quand on est seul avec son petit qui va pleurer des heures durant et qu'on va attendre qu'une chose, c'est le retour du papa le soir pour pouvoir lui mettre dans les bras et aller s'isoler 5 minutes, c'est là qu'on voit vraiment justement qu'on a besoin de rencontrer des personnes, c'est avec les autres mamans qu'on arrivera à s'en sortir.
Et vous agissez sur l'ensemble du département de la Marne, c'est le territoire que vous essayez de quadriller, on va dire?
Oui, alors principalement les événements ont lieu sur Reims, Épernay, Dormans ou alentour.
Et alors nous, on parle aux auditeurs de RCF en Sardaigne, on a peut-être des mamans, des femmes qui nous écoutent du côté de Charleville-Mézières, de Sedan, etc. Est-ce que ça veut dire que les événements que vous organisez sont exclusivement réservés aux femmes qui habitent la Marne, ou est-ce que l'on peut venir d'ailleurs? On pense aussi à nos amis sur RCF Cœur de Champagne qui nous écoutent peut-être dans l'Aube ou en Haute-Marne, etc. Est-ce qu'il y a la possibilité de se greffer à un noyau du côté d'Épernay, de Reims?
Bien sûr, tout à fait. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Ardennaises qui sont déjà venues, notamment sur l'événement de Reims, et aussi des Axonaises qui sont venues sur les événements, notamment de Dormans.
Et donc, vous essayez d'organiser un événement, peut-être deux par mois. C'est le rythme que vous tenez, en tout cas, depuis le mois de mai.
Oui, tout à fait.
Alors, c'est quoi les genres d'événements? Parce que les sujets sont assez larges, finalement.
Oui, le but, c'est que ça soit des événements qui soient fun, conviviaux, en fait, pour les mamans, qu'elles passent vraiment un moment agréable. Et de ce fait, on organise différentes choses comme des brunchs, des goûters, des apéritifs, également des karaokés. Le but aussi, c'est de couvrir un petit peu toute la palette horaire, parce qu'il y a des personnes, des mamans qui vont être plutôt disponibles le matin et d'autres qui vont être que disponibles que l'après-midi, d'autres que le soir. Donc, voilà.
Et on retrouve l'ensemble de votre panel d'activités et de vos propositions via les différents réseaux sociaux, on imagine?
Oui, tout à fait, sur notre page moverwood.asso, où l'association est relativement bien active.
Donc page Facebook, page Instagram?
Page Facebook et Instagram, oui.
Page Facebook et Instagram, donc Motherhood en anglais, motherhood.asso, comme le raccourci de association. On vous retrouve sur les différents réseaux. Et on le disait en introduction de cet entretien avec vous, Cécile Margontier et Myriam Murier, vous organisez donc un événement qui arrive tout prochainement, en tout cas au mois de mars, le week-end du 23-24 mars. On a commencé à en parler un petit peu, c'est de la confiance en soi par la danse. Si l'on va au plus profond de ces activités, que va-t-il vraiment se passer tout au long de ce week-end?
Tout au long de ce week-end, il y aura différents ateliers. En fait, un atelier le samedi matin qui sera plus dédié à l'attitude, la posture, avec du coaching pour se connecter à soi-même, à sa féminité, prendre confiance en soi. Cette même personne animera également un atelier le dimanche matin avec une chorégraphie un petit peu cabaret. Et l'autre intervenant proposera des chorégraphies le samedi après-midi et le dimanche après-midi, qui sont plus puissantes, on va dire, qui vous permettront de retrouver une certaine force.
On va partir sur quelque chose de plus rythmé, qui va aussi permettre de se défouler, parce qu'on en a aussi besoin. Donc toujours dans la bienveillance, sans regard extérieur. On n'est pas toujours à l'aise avec son corps lorsqu'on vient d'être jeune maman. Et cette expérience du week-end de danse, c'est vraiment aussi une façon de se reconnecter avec son corps, avec réellement son enveloppe corporelle, voir qu'on est encore capable de faire des choses, qu'on n'est pas seulement des mamans qui peuvent préparer des biberons. On peut aussi s'amuser et notre corps, même s'il a un petit peu souffert, il est toujours là pour nous.
Et le but, c'est que ça soit accessible à des mamans qui se sentent pas forcément prêtes pour être loin de leur enfant tout un week-end, de leur bébé tout un week-end. Là, il y aura juste une porte à traverser pour rejoindre les enfants qui seront gardés par des nounous en qui j'ai entièrement confiance, puisque mon propre enfant de 18 mois sera gardé également ici.
Et donc ça fait tout un programme qui va s'articuler donc sur ces deux jours. On imagine que le nombre de places malgré tout reste limité, donc on peut prendre contact avec vous. On prend contact via les différentes pages que l'on a annoncées sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ou peut-être qu'on peut privilégier les contacts plus directs?
Oui, tout à fait, on peut me contacter directement sur les réseaux sociaux, à savoir qu'il y a un lien directement qui permet d'accéder au site Hello Asso sur lequel il est possible de s'inscrire.
Et donc là, on vous retrouve, on l'a dit tout à l'heure, sur la page Facebook, sur la page Instagram, motherhood.asso, motherhood.asso, donc Facebook, Instagram pour vous retrouver et participer à cet événement. C'est celui qui est organisé là au mois de mars. On imagine que si on veut être au courant de ce qu'il va se passer dans les prochaines semaines, il faut là aussi rester attentif, et d'autres propositions arrivent déjà pour le mois d'avril prochainement.
Oui, tout à fait. Au mois d'avril, nous nous retrouverons à la maison de champagne d'Aurore Casanova pour une soirée où les enfants sont bien évidemment accueillis. On s'arrange pour que les lieux qu'on choisit soient toujours accessibles pour les mamans et les enfants et bébés.
On est avec vous, Cécile Margontier, présidente de l'association. On est aussi avec vous, Myriam Murier, adhérente, bénévole, active. Vous avez participé à presque tous les événements qui ont été organisés pour le moment?
Presque tous les événements.
Qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui depuis maintenant plus de 6 mois, finalement, bientôt un an, que vous êtes dans cette association en tant qu'adhérente et aussi comme bénévole, donc vous voyez avec deux casquettes, si j'ose dire?
Alors, le réseau de mamans, des mamans que je connaissais virtuellement et que j'ai rencontrées en vrai. Ça, c'est chouette. Et puis, je ne m'attendais pas du tout à prendre d'autres engagements associatifs, parce que j'en avais déjà à côté. Et réellement, avec Cécile, je me sens impliquée. Ça m'a permis de sortir un peu de ma zone de confort, d'être ici, par exemple, avec vous aujourd'hui, de pouvoir aussi prospecter. Ça m'a fait sortir de la maison. Prospecter pour des lieux, prospecter pour des idées d'activités, c'est quelque chose de très enrichissant, tel que peut l'être le travail associatif. On donne autant qu'on reçoit.
On a beaucoup parlé des mamans aujourd'hui, mais c'est un événement, on le rappelle notamment pour le 23-24 mars, c'est une asso qui est ouverte à l'ensemble des femmes, donc n'hésitez pas à rejoindre Motherhood. Plus d'informations via les différents réseaux sociaux, on l'a dit, Facebook, Instagram, motherhood.asso, motherhood.asso. Un grand merci Myriam Murier d'être passée par nos studios, nous présenter l'association et les événements à venir. Merci également à la présidente Cécile Margontier d'avoir été avec nous. On vous dit à très bientôt et puis on espère beaucoup de monde le week-end du 23-24 mars. D'ici là on s'inscrit, attention, deadline on va dire aux alentours du 10 mars, c'est pas forcément le 10 mars en date butoir, mais en tout cas on essaye de faire attention d'ici la première moitié du mois de s'inscrire pour que vous puissiez organiser au mieux cet événement. À très bientôt.
Merci Alexis.
Merci beaucoup.
18h30 sur RCF en Champagne-Ardenne, on passe au journal régional. Les titres de ce vendredi 1er mars, dans le cadre du programme Petite Ville de Demain, un point d'étape a eu lieu entre la préfecture et la commune de Fère-Champenoise, découverte. Le colonel hors classe Christian Jean Demange est depuis un mois le nouveau directeur du SDIS des Ardennes, rencontre.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Le préfet de la Marne, Henri Prévost, s'est rendu dernièrement à Fère-Champenoise dans le sud-ouest marnais pour un point d'étape sur le programme Petite Ville de Demain dans cette commune que nous présente le maire Gérard Goris.
Le but du préfet, c'était de regarder nos orientations stratégiques et tout ce qu'on avait diagnostiqué dans la première année de Petite Ville de Demain. Notre chef de projet, Sandrine Poinsenet, a donné les orientations. Donc on avait trois stratégies, valoriser le territoire en développant l'attractivité, soutenir et développer l'attractivité économique et encourager l'engagement et la participation citoyenne.
Le préfet de la Marne a également transmis les orientations afin que la commune puisse obtenir des retours de financement sur les différents projets, notamment le groupe scolaire ou encore la vidéoprotection. Gérard Goris.
Les petites villes de demain ont une majoration sur les demandes d'aide des cofinanceurs. On a droit, par rapport à des barèmes, à 5% au-dessus de d'autres villes qui, eux, pourraient faire la même demande, mais nous, on bénéficie de 5% supplémentaires par rapport à tous les cofinanceurs.
À compter aussi 75 000 euros d'aide financière pour la commune de Fère-Champenoise.
Cette aide de 75 000, c'est déjà tous les petits projets et les diagnostics qui ont été faits, qui ont été accompagnés via aussi la Banque des Territoires. On a eu pour faire tous les diagnostics et les prévisions sur la ville.
Des propos recueillis au micro RCF Cœur de Champagne de Christopher Fausten. De plus, un projet de territoire axé sur le commerce, l'artisanat, l'attractivité et les mobilités a été abordé entre le maire et le préfet. Les Playmobil reviennent au château fort de Sedan, coup d'envoi demain, samedi 2 mars, de la 6e édition de cette exposition consacrée en 2024 aux films et séries cultes. Elle sera visible jusqu'à mercredi de 10h à 18h. Entrée 5 euros, 3 euros pour les enfants de 6 à 15 ans, gratuit pour les moins de 6 ans. Il est possible de coupler la visite de l'exposition avec celle du château. Ce dimanche 3 mars, l'antenne marnaise du Secours Populaire organise un loto solidaire à la salle Thierry Meng de Bethny. Début du loto à 14h30, ouverture des portes dès 12h45. Il y a un mois tout juste, les sapeurs-pompiers ardennais ont accueilli leur nouveau directeur, le colonel hors classe, Christian Jean Demange. Arrivé au SDIS 08 le 1er février, il a été installé le 20 février lors de la cérémonie officielle de la prise de commandement. Christian Jean Demange est originaire de Strasbourg et est âgé de 59 ans. Cela fait 41 ans qu'il porte l'uniforme. Alors qu'il se destinait à être enseignant, il découvre chez les sapeurs-pompiers des valeurs fortes de solidarité et de fraternité et découvre sa vocation, le colonel hors classe, Christian Jean Demange.
Pour moi, ça a été une véritable révélation à 18 ans, quand j'ai embrassé cette corporation, de me rendre compte que finalement, les valeurs républicaines de liberté, égalité, fraternité étaient incarnées dans la fraternité par des gens qui faisaient ce travail-là. Et puis finalement, au gré des années qui sont passées, des interventions que j'ai pu faire, j'ai trouvé que ça avait beaucoup plus de sens pour moi d'en faire mon métier de tous les jours. Puis au fur et à mesure, bien de m'investir dans cette corporation le plus que je pouvais. J'avais un credo en début de carrière qui m'a jamais quitté, c'est que comme nos sapeurs-pompiers volontaires, ils font leur activité de volontaire en plus de leur temps de travail. Eh bien moi, je fais mon temps sur mon temps de travail. Et ensuite, je me donne un temps supplémentaire pour les pompiers, comme si j'étais sapeur-pompier volontaire et que je cumulais donc avec mon emploi.
Le colonel Jean Demange, après avoir été directeur adjoint du SDIS de Haute-Marne, a choisi les Ardennes, un département à taille humaine pour, entre autres, la diversité des risques qu'on peut y trouver, présence d'une centrale nucléaire, de forêts et un département transfrontalier. Le colonel Christian Jean Demange évoque au micro de RCF France Ardennes ses priorités à la tête du SDIS des Ardennes.
Les grandes priorités, c'est le recrutement de recrues supplémentaires. On va focaliser nos efforts sur le recrutement des jeunes sapeurs-pompiers au niveau des collèges. Je souhaiterais aussi, avec les médias notamment, faire un gros effort de communication vis-à-vis des femmes. Parce que je trouve qu'on a, statistiquement, il y a plus de femmes sapeurs-pompiers dans les Ardennes que dans bien d'autres départements. Mais je trouve qu'on pourrait faire mieux. Les femmes, c'est un public qui doit commencer à s'intéresser sérieusement à cette activité-là. Parce qu'en général, elles ont aussi un esprit très dévoué aux autres. Et par contre, elles se mettent des freins. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en place structures ou les conditions qui nous permettent de les accueillir dans nos rangs. Parce que je sais qu'elles ont une efficacité particulière, notamment dans l'approche aux victimes et tous ces domaines-là. Et j'engage toutes les femmes qui nous entendent à rejoindre, ne serait-ce que pour s'informer déjà, les centres de secours les plus proches ou venir à l'état-major pour prendre des renseignements. Et on se fera un grand plaisir de les renseigner sur comment on devient sapeur-pompier, quelles sont les limites. Et vous verrez que c'est pas, on cherche pas de surhomme.
Les lignes de feu évoluant d'année en année vers le nord du pays, le colonel Christian Jean Demange aimerait également, dès cet été, envoyer des pompiers ardennais sur les colonnes de feu dans le sud de la France afin d'aguerrir ses hommes à un phénomène qui pourrait atteindre le département des Ardennes dans les années à venir. Les rendez-vous sportifs du week-end commencent par du basket avec ce soir à 20h la 22e journée de Pro B. Chalon-Reims se déplace sur le parquet de Poitiers. En Ligue féminine, les Flammes Carolo se déplaceront à Tarbes demain à 20h. Pour la 18e journée. Ce samedi sera très football, puisqu'en D1 Arkema, le Stade de Reims féminin se déplacera à Fleury à 13h30 pour la 16e journée. Un match capital dans la course à la 4e place, synonyme de play-off en fin de saison. Le Stade de Reims masculin recevra Lille à 17h pour la 24e journée de Ligue 1. En Ligue 2, Troyes disputera la 27e journée à 19h sur la pelouse de Guingamp. En volet, 23e journée de Ligue 1 ce samedi également à 20h entre le leader Chaumont et Poitiers. Sans en fait des rendez-vous, ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Chalon, Charleville-Mézières.
Les organisateurs de la 12e édition des Jeunes Talents du Tourisme viennent de sélectionner les 12 candidats des 4 catégories mises en compétition. Ce concours permet d'aider les habitants à découvrir la richesse de notre territoire marnais. Les précisions de Juliette Delcourt, attachée de presse de l'Agence de développement touristique de la Marne.
Juliette Delcourt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'attachée de presse du comité départemental du tourisme de la Marne. Et dès maintenant, nous avons le droit d'aller voter pour les Jeunes Talents du tourisme. Alors, on va peut-être rappeler ce que c'est que les Jeunes Talents du Tourisme.
Oui, bien sûr. Donc, c'est un concours, c'est la 12e édition. C'est un concours qui a pour vocation de valoriser les démarches innovantes des prestataires touristiques qui s'investissent et s'impliquent dans la Marne.
Et une fois que ces jeunes se sont inscrits, il faut donc aller voter pour eux.
Tout à fait. Donc, les votes du public sont ouverts depuis le jeudi 22 février. Donc, vous pouvez aller voter en ligne sur le site www.tourisme-en-champagne.com. Et le 9 mars, les 9 finalistes seront présents à l'Office de tourisme d'Épernay. Et donc, ils pourront vous présenter et vous parler de leurs activités. Et là, vous pourrez voter en direct.
En sachant que la date limite pour voter, c'est...
Alors, pour le vote, c'est c'est le 18 mars.
D'accord, donc on peut rencontrer les sélectionnés et puis se dire, ben voilà, j'ai préféré tel et tel. Et alors, ils viennent de tous les secteurs géographiques de la Marne ?
Presque. En fait, l'appel à candidature a eu lieu, donc il concerne tout le département. Et ensuite, on fait en fonction des candidatures. Donc là, la majorité du département est représentée en fonction des candidatures que nous avons reçues.
On a le droit de citer les communes d'où viennent ces candidats ?
Bien sûr. Donc, il y a la commune de Vertu, la commune de Cormoyeux, Barbonne-Fayelle, Saint-Quentin-sur-Caule, Mareuil-le-Port, Avize et Châtillon-sur-Marne.
Oui, c'est un beau secteur là-bas du côté de la vallée du vignoble.
Exactement.
Je ne sais pas trop comment on l'appelle cette vallée-là. Cette vallée quand même.
La vallée de la Marne.
Ah, oui. La vallée de la Marne tout simplement. Voilà, qui est surmontée d'une belle statue. Eh bien Juliette, on va rappeler qu'on invite nos auditeurs à venir vous rendre visite.
Oui, sur le salon Destination Marne, qui aura lieu du 15 au 18 mars au Capitole à Châlons-Champagne.
C'est ouvert à des horaires particuliers ?
De 10h à 18h, oui.
Pendant 3 jours, avec plein d'animations.
Exactement, plein d'animations et une centaine d'exposants de prestataires touristiques du territoire.
Peut-être des animations particulières qu'on connaît pas peut-être déjà aujourd'hui ?
Alors ça se peaufine, mais disons que l'ambiance générale du salon sera sur la thématique de notre futur événement En Route Libre, qui a pour but de faire la promotion de la mobilité douce. Donc voilà, il y aura la décoration sera faite par des places festives, notamment pour les offices de tourisme. Voilà, donc ce sera tout autour de la mobilité douce et de l'esprit festif.
Voilà, donc on vient à vélo.
Oui. Pourquoi pas,
voilà. Eh bien, Juliette Delcourt, merci. Je rappelle que vous êtes l'attachée de presse de l'Agence de développement touristique de la Marne.
Merci.
Juliette Delcourt au micro de Gérald Gaillet de RCF Cœur de Champagne. Les sélectionnés seront présents à l'Office de tourisme d'Épernay en Champagne le samedi 9 mars. Plus d'informations pour voter sur le site internet tourisme-en-champagne.com.
Le 18-19 sur RCF.
Encore une vingtaine de minutes à passer ensemble ce vendredi avant les vacances et on ne change pas les habitudes. On retrouve l'archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, exceptionnellement avec nous par téléphone. Monseigneur, bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Merci d'être avec nous dans Parole d'évêque ce vendredi, archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, mais aussi président de la Conférence des évêques de France. À ce titre, l'actualité nationale et internationale de cette semaine nous oblige, Monseigneur, à revenir sur un certain nombre de sujets. Vous êtes d'ailleurs à Paris à l'heure où l'on se parle. Ça va faire une semaine que le Salon international de l'agriculture est ouvert avec de fortes tensions. Les agriculteurs sont en colère et la Conférence des évêques de France a souhaité apporter son soutien à nos paysans, Monseigneur.
En tout cas, une délégation d'évêques est allée rendre visite au salon, comme ça se fait maintenant depuis quelques années. Curieusement, moi je pensais au départ que ça se faisait depuis toujours. En fait, non, mais depuis une petite dizaine d'années, peut-être qu'une délégation d'évêques y va chaque fois. Et donc cette année, dans le contexte particulier de ce moment, cela dit, ça fait longtemps qu'il y a des tensions hein, dans le monde agricole. C'est un monde en grand changement. Les agriculteurs de notre région le savent bien. Ils transforment beaucoup leur mode de production, ils s'interrogent beaucoup sur le sens de leur métier. C'est toujours très intéressant et très passionnant, je dois dire, de rencontrer des agriculteurs parce que, pour ma part, en tout cas, je découvre une profession, des hommes, des femmes qui s'interrogent beaucoup et qui, très courageusement, remettent en cause un peu leur façon de faire de manière à correspondre davantage à un certain nombre d'exigences sanitaires, d'attentes du consommateur et aussi de nécessité pour le bien de notre planète.
Lors de ces rencontres avec les agriculteurs, Monseigneur, vraiment c'est important de prendre le pouls de ce qu'il se passe dans les différents milieux de la société française ?
Oui, le monde agricole pendant très longtemps a été la majeure partie de la population, donc tout le monde avait des agriculteurs dans sa famille. Aujourd'hui ce n'est plus le cas du tout, c'est un petit pourcentage de la population, avec une grande inquiétude sur leur succession, qui se lèvera pour reprendre les exploitations dans les 10 années ou les 15 années qui viennent. Mais voilà, des gens courageux avec de très belles histoires, des gens dont certains sont en grande souffrance et en grande difficulté, parce qu'ils n'ont pas forcément été toujours bien conseillés non plus. Donc pour moi, il est très, très important que nous connaissions les agriculteurs et surtout que tous les citadins fassent l'effort d'en rencontrer, de comprendre comment vit l'exploitation, parce que nous bénéficions de leur travail, mais nous savons mal en fait comment ils vivent, quelles questions ils se posent, quels efforts ils font.
Le message est bien passé, Mgr Éric de Moulin-Beaufort, sur l'antenne de RCF. L'autre actualité qui fait réagir le monde de l'Église en France, c'est le projet de loi qui vise à inscrire l'IVG dans la Constitution, qui a été voté au Sénat cette semaine. Quel est votre regard, Mgr, sur ce projet de loi et sur ce vote au Sénat ?
Comme nous l'avons dit dans un communiqué hier, je suis très, très triste de cette affaire. Je pense que notre pays se glorifie, s'enorgueillit ou en étant un phare pour l'humanité en faisant cela. L'avortement est en France organisé, c'est un droit, il n'est pas particulièrement menacé. Je veux dire pour ma part que j'aurais voulu plutôt que dans la Constitution on inscrive la protection, la promotion des droits des femmes et des enfants. Nous sommes à un moment où on connaît toutes les violences dont les femmes sont victimes, on connaît les violences dont les enfants peuvent être victimes, mais au sein des familles, il y aurait un sujet plus large, il me semble. Alors je suis un peu frappé qu'en ce moment, les grands sujets politiques, c'est le droit à l'avortement et peut-être bientôt le droit à l'euthanasie ou au suicide assisté. Tout ça a un petit goût morbide et dans un monde où il faudrait plutôt donner le goût de vivre et le désir de vivre ensemble et de construire ensemble une vie fraternelle.
Il y a déjà eu plusieurs rencontres. Est-ce qu'encore aujourd'hui, vous avez un moyen d'exprimer vos craintes, vos opinions au plus haut niveau de l'État, Mgr Éric de Moulin-Beaufort ?
Bon, on peut toujours le dire au plus haut niveau de l'État, on l'a dit à plusieurs reprises, et pas que moi, toutes les religions l'ont dit au président de la République, au Premier ministre, chaque fois que nous les rencontrons. On a pu le dire aux sénateurs, aux députés aussi, en les rencontrant. Après, chacun vote en son âme et conscience, c'est sa stabilité propre. Là-dessus, les jeux sont faits. Sur la question de la fin de vie, j'espère qu'il y a encore moyen de faire entendre raison sur le sujet, mais on verra bien comment le débat se passera au Parlement. C'est encore le Parlement qui fait la loi, c'est pas tout à fait l'exécutif.
Et on aura l'occasion d'y revenir dans nos prochains programmes. On continue, Mgr, de balayer ce qu'il s'est passé cette semaine en s'intéressant peut-être un peu plus à votre agenda. Vous avez passé quelques jours à Istanbul, Mgr Éric de Moulin-Beaufort. Quel était l'objet de ce voyage en Turquie ?
Voilà, alors il faut savoir qu'en France, nous avons un très bon travail entre chrétiens, avec le président de la Fédération protestante de France, avec le président de l'Assemblée des évêques orthodoxes en France. Donc l'un est le pasteur Christian Krieger, l'autre le métropolite Démétrios. Et le métropolite Démétrios, qui représente le patriarche œcuménique, le patriarche de Constantinople, souhaitait pouvoir manifester la qualité de ses liens en nous faisant rencontrer, au pasteur Krieger et moi, sa sainteté, le patriarche Bartholoméos. Donc c'est ce que nous avons fait mardi matin. Voilà, donc nous sommes arrivés lundi à Istanbul, ça nous a permis de rencontrer le consul et même l'ambassadrice, qui venait d'Ankara pour une remise de décoration. Elle n'est pas venue pour nous, mais il se trouve qu'elle était là. Et donc nous avons eu une bonne conversation avec eux, nous avons rencontré l'évêque latin, le nonce apostolique, et puis le patriarche et le Saint-Synode. Il y a encore une sorte de conseil du patriarche, qui est un groupe de 12 évêques qui se réunissent tous les mois, venant du monde entier. En tournant d'ailleurs, c'est assez intéressant, ils changent tous les ans, avec un décalage de 6 mois. La moitié est renouvelée à une date, et puis les autres 6 mois plus tard, ce qui assure un peu de continuité. Alors, nous avons déjà avec le Saint-Synode, et puis rencontré le patriarche, et puis il y a eu quelques rencontres avec notamment le métropolite Emmanuel, qui a été en France pendant longtemps, et qui est maintenant le numéro 2 du patriarcat.
C'est un rendez-vous important pour montrer des relations de fraternité dans des relations œcuméniques, en fait, Mgr.
Voilà, il ne s'agit pas simplement de les montrer, il s'agit de les vivre. Nous nous connaissons bien, nous apprécions. C'est, je trouve, moi, un grand signe des temps, aujourd'hui, l'amitié que nous pouvons avoir entre chrétiens, entre différentes confessions chrétiennes. Et de même, j'y ajoute l'amitié que nous pouvons avoir avec les juifs aussi, dans notre pays de France. Nous avons des relations très riches. Et je crois que c'est vraiment un grand signe d'un progrès de l'histoire. Voilà, au milieu de tous les drames de l'histoire, il y a des progrès et une relation œcuménique, une relation avec les juifs en sont.
Et retour dans le diocèse de Reims et des Ardennes, Mgr, pour revenir à la vie diocésaine locale, vous serez à 20h ce vendredi soir à la maison Notre-Dame avec une nouvelle conférence de carême. Quel sera le thème que vous aborderez ce soir ?
Alors j'essaierai toujours pour essayer de comprendre le lien entre Jésus et l'Église, de m'interroger sur le salut et pourquoi l'Église est nécessaire au salut. Et quel est le rôle de l'Église dans l'œuvre de salut que Dieu veut faire ? Si Dieu veut sauver tous les hommes, à quoi sert l'Église, en quelque sorte ?
C'est la troisième conférence de carême que vous donnez. Déjà, si on prend le pouls des premières tendances, les diocésains répondent présent. C'est toujours un moment qui leur plaît en ce temps du carême, les conférences avec vous, Mgr Éric de Moulin-Beaufort.
Écoutez, tant mieux. Pour ma part, ça me plaît beaucoup. C'est-à-dire que je suis toujours heureux en carême de pouvoir parler un petit peu gratuitement, sans but déterminé, un petit peu longuement aussi, de notre foi, du Christ, de son œuvre, de l'action de Dieu dans le monde. Voilà, ça me permet, pour moi en tout cas, de développer, d'affermir un certain nombre d'idées importantes. Et si je peux les partager avec les diocésains, je crois que ça éclaire un peu notre action pastorale et puis notre vie tout court dans ce monde un peu compliqué dans lequel nous vivons.
Des conférences à suivre à la maison Notre-Dame de Reims à 20h ou sur le YouTube du diocèse de Reims et des Ardennes si on ne peut pas se rendre sur place, ou encore à réécouter ou réentendre le mardi à partir de 19h30 sur l'antenne de RCF. Un grand merci, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, d'avoir été avec nous.
Merci Alexis, merci à toutes et à tous. Bon carême.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et on termine ce magazine régional par un portrait. Depuis ses débuts à Reims, Silda a gravi les échelons de la scène musicale, partageant la scène avec des artistes renommés comme Julien Doré, Mathieu Chédid, Amir, Mika. Après avoir captivé le public dans The Voice, elle se lance maintenant avec un nouveau single, Si on s'aime, et un album d'inédit. Jérôme Gorgeau est parti à sa rencontre.
Si on s'aime. Eh oui, si on s'aimait, c'est une bonne idée ça, Silda, bonjour.
Bonjour.
Si on s'aime, c'est le nom de ton nouveau single, c'est ça qu'il faut expliquer.
Oui, complètement. C'est une chanson sur l'acceptation de soi, ça dénonce les standards de beauté et toute cette pression parfois qu'on peut avoir de la société, parce qu'on nous fait souvent croire qu'il y a un idéal, qu'on peut atteindre cet idéal, alors qu'en réalité, non. Et je pense que c'est bien de s'assumer comme on est, avec toute notre singularité, et justement... je pense que c'est aussi ce qui rend les choses encore plus belles, le fait que tout le monde soit singulier. Et...
Alors, Silda, peut-être des gens ne te connaissent encore pas, on ne sait jamais. Après tout, ta voix est une fierté pour nous, les Chalonnais et même les Marnais d'ailleurs. Hein. On rappelle que toi, Silda, tu es une jeune femme, une jeune artiste qui cartonne depuis 2-3 ans à peine, qui explose. Tu es de Chalon ? Tu ne te trompes pas ?
Ouais, j'habite à Chalon. Je suis née à Reims quand même.
T'es née à Reims, c'est ça, oui. C'est bien ce que j'ai lu. Oui.
Exactement, mais j'habite à Chalon. Donc
tu es une Chalonnaise, oui. 25 ans à peu près ?
24.
24, presque. Oh pardon. Et tu as eu un déclic, on dirait, en 2021
Alors oui, je sais plus. Oui, c'est ça, c'est l'album. Il y a un album qui est sorti de Julien Doré. Je ne sais pas si tu fais référence
oui,
à ça.
Oui, c'est ça.
C'est une histoire assez jolie. En fait, c'était pendant le confinement. J'ai été repérée sur les réseaux sociaux par Julien Doré. Et il m'a demandé de faire un duo avec lui, virtuel, ce qu'on a fait. Et en fait, ça a été vachement bien accueilli. Et donc, à la fin, il m'a proposé de collaborer sur son dernier album. Et donc, j'ai la chance aujourd'hui d'être en duo avec lui sur une chanson qui s'appelle « Nous », qu'il a écrit et composé. Et je suis trop fière.
Tu sais qu'il a aidé une élève qui s'appelle Juliette Armanet, quand même, Julien.
Ouais.
Donc, tu vois,
ouais,
il avait plutôt le nez creux, en principe. Ça veut dire ce que ça veut dire. On va y revenir. Tu as fait The Voice 2023. C'est aussi Silda, ça.
Ouais, c'était l'année dernière. Donc j'ai fait les auditions à l'aveugle de The Voice et je suis allée dans l'équipe de Vianney. C'était une chouette expérience. J'ai rencontré plein de gens qui partageaient la même passion que moi. Et puis c'était aussi quelque chose que je connaissais pas, l'univers de la télé. Donc ça m'a beaucoup fait grandir.
Ce que j'aime bien, moi, quand je me plonge dans l'univers de Silda, c'est le message qu'il y a derrière. Il y a d'abord une très bonne chanteuse, une très jolie chanteuse au niveau de la voix et d'ailleurs l'esthétique d'ailleurs, mais... Si tu veux, c'est le message que tu donnes qui est intéressant, c'est que tu dis, à un moment donné, tu travaillais encore en usine, et puis tu te dis, il faut que ça sorte, à un moment donné, tu lâches le truc, quoi. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, tu es encore en train d'être dans ton usine, et dans l'année, il y a un déclenchement, et tu te dis, j'ai un rêve, faut que je fonce, faut que j'y aille.
Ouais, mais en fait, c'est ça, pendant le confinement, je suis allée travailler à l'usine, donc j'y ai travaillé pendant un an à peu près, et en fait, c'est assez drôle, parce que l'album avec Julien Doré est sorti au même moment, et le matin même, j'étais à l'usine, ensuite, je suis allée acheter l'album à la Fnac, je suis retournée à l'usine, et c'était assez
compliqué. Ça va être bizarre d'être à l'usine, en même temps qu'on se dit, je viens de chanter avec Julien Doré, c'est
ouais,
bizarre.
Exactement.
Tu faisais quoi dans l'usine?
Exactement.
De
c'était des préparations pour les pharmacies, les hôpitaux, donc c'était assez physique, très 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 dur. Et j'ai beaucoup appris là-bas aussi, parce que tu vois des femmes de 40 ans, 50 ans qui ont fait ça toute leur vie et qui travaillent à fond pour remplir leur frigo et faire plaisir à leurs enfants. Et c'est beau et j'ai appris tellement. Et je me suis surpassée, j'ai connu mes limites aussi. C'est une période de ma vie que je garderai toujours.
Il faut avoir vécu pour pouvoir chanter. C'est mieux d'avoir vécu des choses. Évidemment, ça paraît une évidence, mais c'est ça.
Oui, je pense. Parce que déjà, je pense que... Moi, j'aime beaucoup aborder des thèmes universels qui parlent à tout le monde. Donc j'essaye aussi de m'inspirer des autres, mais aussi de moi parfois. Et voilà, le plus important pour moi, c'est que ça puisse parler aux gens. Donc oui, c'est important de vivre des choses.
Là, c'est le cas.
Bah oui, voilà.
Parce qu'il faut expliquer quand même, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, c'est par exemple l'année dernière, pendant la foire en scène,
oui.
Tu étais la première partie de Mika.
Ouais, carrément.
Quand même. Devant combien de milliers de personnes? Tu n'as peut-être pas pu toutes les compter, mais tu en avais beaucoup.
Je crois que c'était 20 000,
ah oui,
il me semble.
Enfin, en tout cas, c'est énormément, quoi.
Ouais,
c'est
ouais.
Plus que dans ton salon, quoi.
C'est sûr.
Par exemple. On va écouter un petit extrait de Si on s'aime, ton nouveau single.
J'en ai plus qu'assez de vouloir ressembler. La mode nous afflige, les réseaux nous infligent. Jeunesse virtuelle, des filtres pour être heureux. Minceur éternelle, ça rend bien malheureux. Qu'est-ce que j'aime pas chez moi? Pourquoi je voudrais changer les défauts que j'ai pas? Et si on s'aime, 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 encore une heure ou deux? Et si on s'aime, 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 pour une fois dans nos yeux? Et si on s'aime, 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 encore une heure ou deux? Et si on s'aime? Et si on s'aime? Oh.
Silda, c'est vraiment émouvant ce que tu chantes et comment tu le chantes. Il y a une émotion. Alors, souvent, tu dis « Ah, encore une chanson d'amour, ah 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 », tu vois, tu fais un peu d'humour là-dessus, parce qu'en fait, c'est le thème qui te guide. Est-ce que tu crois que tu peux ne pas faire le tour de ce thème? Est-ce que tu te dis « Je pourrais toujours aller vers l'amour », vers finalement, parce que c'est ça que tu chantes, quoi.
Bah ouais.
Avec quand même un petit peu le fond, parce que quelque part, tu es quand même une jeune femme de ta génération.
Mmh.
Je vois, il y a des vidéos, tu essayes de faire une approche différente, il y a des stories,
ouais.
Il y a tout ce qu'une jeune chanteuse doit faire de nos jours. C'est pas le même métier qu'avant.
C'est pas le même métier qu'avant, c'est sûr. Aujourd'hui, les réseaux sociaux prennent une place vraiment, vraiment importante. Parfois, ça me dépasse encore un peu, j'avoue. Mais oui, en tout cas, c'est vrai que, par exemple, on voit TikTok. Il y a des carrières qui se lancent comme ça grâce à ce réseau social et je trouve ça assez fou. Donc oui, c'est sûr qu'avant, peut-être, les artistes n'avaient pas forcément autant... Enfin, en tout cas, ne donnaient pas autant d'importance aux réseaux sociaux. Et voilà, ça se faisait beaucoup à la télé, à la radio, voilà, j'imagine, mais en tout cas...
42 000 abonnés sur TikTok,
oui.
Hein, 14 000 sur Instagram et 7 000 sur Facebook, c'est pas trop mal.
Ça va. J'ai une communauté vraiment...
fidèle.
Ouais, vraiment fidèle et je suis très reconnaissante pour ça, parce qu'ils sont très patients et quand je sors mes projets, les gens sont toujours là et c'est trop important, donc vraiment, je me sens très chanceuse.
Alors, t'as un nouveau clip qui est sorti, hein,
oui.
On peut trouver sur YouTube, par contre, on tape le nom de ton single.
Ouais, Si on s'aime.
Tout simplement. Et il y a un album.
Ouais, c'est un petit album qui est composé de 5 titres que j'ai écrit et composé. Il y a juste une chanson qui est une reprise de Stéphane Escher qui s'appelle Déjeuner en paix. Et c'est un album où on peut retrouver différents thèmes. Par exemple, la difficulté de trouver sa place un petit peu dans ce monde qui est parfois trop, très grand, avec beaucoup d'informations. Cette pression de la société qu'on peut avoir sur les standards de beauté, je parle aussi de l'école, du système scolaire, parce que bah, je ne me suis pas sentie toujours soutenue par les conseillers d'orientation, par exemple. Et donc, je n'osais pas trop parler de la musique parce qu'on me faisait vite comprendre que ce n'était pas possible. Donc voilà, il y a des messages à chaque fois d'espoir, de croyez en vous, acceptez-vous comme vous êtes, croyez en vos rêves, allez jusqu'au bout. Voilà, c'est à peu près...
Ça guide ton œuvre, ça. Il y a toujours ce côté, il faut y croire, on
bah
peut
ouais.
avancer toujours.
Bah ouais, parce que je pense que si on n'a pas ce truc de... Si on n'y croit pas, c'est trop difficile quoi, d'atteindre un objectif. Et ouais, il faut toujours croire en soi, même si parfois je suis pleine de doutes et c'est complètement normal. Il ne faut rien lâcher et il faut y aller. Il ne faut pas de regrets. C'est vraiment ouais. ma devise. Je ne
le
veux
doute,
pas de regrets.
C'est inhérent à tout artiste. Il y a une chanson d'Anne Sylvestre magnifique là-dessus. Si on s'aime, le nouveau single, le très joli single de Silda. Je vous conseille d'aller voir. Nouveau clip, nouvel album. Merci beaucoup. Change rien, Silda, s'il te plaît.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Merci Silda et Jérôme Gorgeau. Vous pouvez retrouver le nouveau single de Silda, Si on s'aime, sur Spotify, Instagram et YouTube. Et nous, soyez-en sûrs, dans les rédactions de RCF Cœur de Champagne, RCF France-Ardenne, on vous aime, mais on prend un petit peu de vacances. C'est ainsi que se referme le magazine régional ce soir. Si vous aussi, vous avez de la chance et que vous partez en vacances, on vous souhaite de bonnes vacances, de bien profiter. Si vous restez et que vous travaillez, vos différentes rédactions locales, RCF France-Ardenne, RCF Cœur de Champagne, vous accompagnent tout au long de la semaine prochaine avec globalement l'ensemble de vos programmes habituels. Évidemment, on vous souhaite bon courage si vous êtes sur le pont ce dimanche 3 mars. N'oubliez pas, c'est la fête des grands-mères. Alors, à toutes les mamies, on vous embrasse, on vous fait un gros bisou à travers le poste et à très vite. Merci pour votre fidélité. Tout de suite, l'information nationale sur RCF.